On va continuer sur la conférence de Jonathan Pison sur reverse engineering des équipements et format des fichiers dans la recherche.
Alors bonjour, vous avez vu un exemple dans la conférence juste avant de reverse engineering. Alors je vais commencer par faire un petit historique quand même du lien entre l'humanité et le reverse engineering. Ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Dans les premiers écrits historiques, on retrouve par exemple l'exemple des Romains avec les Carthaginois qui ont pris un de leurs bateaux et qui l'ont copié intégralement. Ils n'ont pas utilisé les mêmes matériaux, c'était un peu plus lourd, ça marchait moins bien, mais ça leur a quand même permis de conquérir pas mal de zones grâce à ça. Alors ça, c'est une histoire un peu particulière, c'est la machine d'Anticythère qui a été trouvée au début du XXe siècle au fond des mers et qui a été comprise juste il y a entre 5 et 10 ans et elle a été comprise vraiment complètement il y a 2 ans. Donc en fait, les morceaux qu'ils ont trouvés, c'est ceux-là, ce que vous voyez à droite. Et à l'aide de techniques de reverse engineering relativement récentes, ils ont pu se rendre compte que, au lieu d'être un bloc de pierre comme ils pensaient au départ, c'est un système extrêmement complexe avec beaucoup d'engrenages. Alors vous voyez le schéma reconstitué en bas. Et c'est en fait une machine qui fait une représentation des systèmes célestes. Donc vous voyez les éclipses, donc éclipses lunaires, éclipses solaires. Vous avez les dates des différents jeux dans les différentes villes des régions grecques. Donc c'est un système très complexe avec des roues elliptiques. Donc ça a demandé quand même beaucoup de travail aux chercheurs pour savoir comment ça fonctionnait. Et à gauche, vous voyez une reconstitution à partir de tous ces schémas-là, de cette machine-là. Alors un peu plus récemment, ça c'est Enigma. C'est une machine qui a servi à du cryptage en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les premiers travaux de Marian Rejewski qui a compris comment cette machine fonctionnait, qui a commencé à chercher un moyen de décrypter ces choses-là. Et vraiment, là où le gros effort de décryptage a été fait, c'est par Alan Turing qui a fabriqué la petite machine que vous voyez en bas et qui permet en quelques jours de décrypter les messages d'Enigma. Donc c'est ce qui a permis de prévoir certaines attaques nazies, ça a permis pas mal de choses. Et pour la petite histoire, en fait, le Marian Jerewski qui avait quand même donné des techniques pour pouvoir décrypter les premières implémentations de cette machine n'était même pas au courant. Ses travaux avaient été utilisés pendant la guerre, donc c'était des projets top secret. Et il a appris des années plus tard que ça avait été utilisé. Alors ça, c'est un peu plus récent, c'est l'histoire des BIOS, des machines IBM, qui étaient, alors toute la machine, les ports ISA, toutes ces choses-là, c'était connu, tout le monde savait comment ça fonctionnait. La seule chose qui empêchait d'autres entreprises de copier ces machines, c'était le BIOS. Sauf qu'il n'y avait pas le droit de décompiler le BIOS, parce qu'il y avait des licences qui protégeaient ça. Donc ce qu'ont fait certaines entreprises, et Compaq en deuxième, le premier exemple c'était cette boîte-là, il y a une première équipe qui va étudier le BIOS, qui va faire une documentation, et une deuxième équipe qui va prendre cette documentation et refabriquer un nouveau BIOS. Donc pour ceux qui ne savent pas, le BIOS c'est la partie de l'ordinateur qui va servir à faire l'interaction entre les programmes et le matériel, et à partir du moment où cette chose-là a été copiée, enfin, une nouvelle a été faite, ça a permis de faire des ordinateurs qui étaient à peu près 2 fois moins chers et de diffuser la technologie des PC. Alors c'est la même approche, ce qu'on appelle une approche clean room, ce qui fait qu'on ne prend pas des développeurs qui ont accès au code source de chez IBM pour fabriquer les BIOS, on prend une autre équipe. Comme ça, il n'y a pas de problème de droit, on ne peut pas faire de poursuite. Et c'est l'approche qui est utilisée par exemple par les développeurs du projet libre nouveau qui permet de faire fonctionner les cartes graphiques Nvidia sous Linux. Alors, il y a des exemples un peu plus récents. Alors, certains d'entre vous ont peut-être vu ce reportage sur l'obsolescence programmée, sur les fabricants d'imprimantes qui mettent des systèmes dans leurs cartouches pour vous empêcher de les recharger, voire même d'empêcher d'utiliser votre imprimante au bout d'un certain nombre de pages imprimées. Donc, il y a des personnes qui ont fait du reverse engineering du contenu de l'imprimante, qui sont tombées sur ce petit composant-là, qui est une EPROM, qui est une petite mémoire, et qui ont fait des logiciels qui permettent de reprogrammer cette mémoire et de dire à l'imprimante, ben maintenant, t'es toute neuve. Alors, l'utilité du reverse engineering, je vous ai dit déjà que c'était quelque chose qui existait depuis très longtemps. On peut supposer aussi que c'est depuis que les humains ont commencé à fabriquer des choses. Alors, là autour, vous avez les différents domaines d'utilité. Donc, ça peut vous servir à comprendre, à créer, copier, à contourner, adapter, analyser, documenter. Ça permet de s'amuser aussi, hein, des fois. Et c'est utilisé à la fois dans des domaines des hobbies, hein, des activités associatives ou personnelles chez soi. C'est utilisé aussi dans l'industrie, c'est ce qui permet à des fabricants en Asie en particulier de copier des téléphones ou de faire des choses comme ça. C'est utilisé dans le domaine militaire, beaucoup aussi. C'est utilisé dans l'investigation scientifique légale. Alors ça, il n'y a pas vraiment de traduction en français. C'est ce qu'on appelle les forensics en anglais. C'est-à-dire que quand il y a eu un accident ou des choses comme ça, ça permet aussi d'étudier qu'est-ce qui s'est passé dans cet accident-là. Et c'est souvent en démontant les appareils qu'on peut savoir ce qui s'est passé. Alors, les différentes approches, ça dépend de quel objet on cherche à reverse engineer. Alors, si c'est du matériel ou du logiciel, on ne va pas adopter les mêmes approches. L'approche qui est commune, c'est ce qu'on appelle les analyses de flux, c'est savoir qu'est-ce qu'on donne en entrée à l'appareil et qu'est-ce qui se passe en sortie. Donc ça, c'est commun à tout ce qui est matériel et tout ce qui est logiciel. Concernant du matériel, on peut le démonter si on y arrive, on peut faire des analyses. Alors là, je vous ai mis rayon X, par exemple, c'est ce qui a été utilisé pour la machine d'Anticythère. Donc ils ont utilisé des scanners à rayon X fabriqués exprès pour cette machine-là, qui leur ont permis d'avoir une imagerie à 50 microns près. Alors on peut utiliser de l'IRM, on peut utiliser énormément de techniques différentes. Alors je vous ai mis analyse chimique et des protections, c'est parce que des fois, je ne sais pas si vous avez déjà démonté les appareils, des fois il y a des résines par exemple sur des composants. Donc par exemple il y a des systèmes de décapage avec des acides pour enlever ces couches de résine, voire même décaper des processeurs et voir comment le processeur a été conçu. On a des outils après logiciels qui permettent d'analyser tous les petits bouts du circuit, et de dire, bah, cette partie-là, c'est de la mémoire, cette partie-là, c'est celle qui fait le calcul, cette partie-là, bah, tiens, ça tombe bien, c'est là qu'il y a les fusibles, où il y a le système de cryptage, donc on peut faire sauter le fusible. Au niveau des logiciels, ce qu'on peut faire, c'est faire de la décompilation, c'est-à-dire retransformer le code binaire qu'exécute la machine en code source, en assembleur en général, qui permet de retravailler dessus. On peut faire de l'analyse, donc savoir qu'est-ce que le programme est en train de faire au système d'exploitation de l'ordinateur, et la désobfuscation, parce que les développeurs ils sont pas si bêtes, et des fois ils mettent des techniques pour protéger leur logiciel contre ce type d'attaque-là. Mais en pratique, ça résiste pas très très longtemps. Alors là, je vous montre en image différents types d'études de matériel. Par exemple, c'est très utilisé pour les imprimantes 3D, vous voulez copier une pièce. Alors soit vous la mesurez vous-même et vous allez faire le plan de votre machine et vous la réimprimez. Ce que vous pouvez utiliser, c'est des machines assez simples à fabriquer. La première en haut à gauche, là, c'est des scanners 3D à laser. C'est-à-dire que vous venez prendre une lentille qui fait une fente avec votre laser, une caméra, et vous avez un logiciel d'analyse en faisant tourner votre objet qui va vous donner toutes les coordonnées en 3D du volume de votre objet. Après, vous avez des techniques un peu plus fines avec la lumière structurée. Là, ça va plus vite et ça permet de prendre un peu plus les formes creuses à l'intérieur, et la tomographie par rayon X, où là c'est le même principe que les scanners médicaux. Pour le logiciel, là je vous montre un exemple, le début c'était la commande LS, un petit morceau qui a été décompilé, et en bas c'est la trace. Et la trace, là on voit sur chaque ligne qu'est-ce que le programme est en train de demander au système d'exploitation. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, mais je démarre par cette fonction-là. Maintenant, qu'est-ce que tu es comme commande? Dans quel langage tu te places? Alors les bind text domains, c'est pour dire est-ce que la commande elle va être traduite. Voilà. Donc ça, le développeur ou la personne qui connaît un petit peu ces trucs là il va pouvoir démonter, savoir qu'est-ce qu'est en train de faire cette application. Donc si vous avez une application par exemple qui est limitée dans le temps ou des choses comme ça, vous allez voir l'application elle va demander la date, elle va la comparer et vous allez pouvoir le voir avec ces systèmes de traces. Alors est-ce que ces choses là c'est légal? Alors ça dépend ce que vous faites en reverse engineering. Dans la plupart des cas, si c'est pour comprendre l'objet et encore plus si c'est pour faire l'interopérabilité, c'est-à-dire l'adapter à une autre plateforme, si vous voulez que votre machine que vous avez achetée elle fonctionne sous Linux, vous avez le droit de le faire. Et non seulement vous avez le droit, mais en plus vous pouvez diffuser le logiciel que vous avez fait à partir de là. Alors, la seule limite, c'est que vous n'avez pas le droit de faire sauter les techniques de protection. C'est-à-dire que s'il y a des techniques de cryptage, ou des techniques vraiment de protection par dongle, donc des petits objets que vous branchez dans l'ordinateur, c'est pas tout à fait légal, c'est un peu compliqué. Alors les textes sont sujets à interprétation, mais a priori ça passe rarement. Et justement, l'Europe a réappuyé sur ce point-là en disant qu'on a le droit et qu'en plus, l'entreprise propriétaire de cette machine n'a pas le droit de vous empêcher de diffuser les informations. La loi française, elle le prévoyait déjà. Et elle a dit, à partir du moment où vous avez la licence pour ce logiciel ou cet appareil, vous pouvez l'étudier, regarder comment il fonctionne, le copier, etc. Alors, dans le domaine de la recherche, le chercheur, il va regarder un objet. Et cet objet, il va chercher à mettre un modèle au-dessus de cet objet. Donc pour regarder son objet, il va utiliser des outils. Pour créer et observer son modèle, il va avoir besoin d'outils. Et il va communiquer avec les autres chercheurs par l'intermédiaire de publications. Donc lui aussi, il va lire ses publications, il va en écrire, etc. Et donc en gros, l'open dans la recherche, ça peut se placer un peu n'importe où. C'est-à-dire, on va créer des outils logiciels et matériels libres pour étudier les objets. Aussi des outils et matériels libres pour pouvoir regarder les résultats de ces objets-là. Enfin, de ces machines-là, et pareil pour les modèles. Alors, il y a beaucoup de logiciels libres dans la partie modèle. c'est-à-dire des logiciels de mathématiques, de modélisation, etc. Ça, ça se trouve assez facilement en libre. Par contre, en ce qui concerne la partie pour les objets, c'est-à-dire ce que je vous ai montré tout à l'heure, des scanners 3D ou des équipements en chimie, par exemple, les fabricants verrouillent les machines, ne vous donnent pas les protocoles et vous donnent encore moins la façon dont leurs formats de fichiers sont conçus. Alors là, je fais une petite digression, c'est sur l'open access. Alors, c'est un mouvement qui est en train de se développer dans la recherche et qui vise à permettre la diffusion libre et gratuite sous la forme de contrats de licence Creative Commons, par exemple, des publications. Alors, dans un système classique, vous avez votre éditeur qui propose un journal. Donc vous payez, ça peut coûter jusqu'à 80 ou 100 euros l'article, un article de 10 pages. Hein. Donc vous achetez votre article, vous le lisez, ça vous sert de base pour votre recherche. Donc en général, votre recherche, ça va être composé de 15 à 20 articles. Ensuite, vous écrivez votre publication. Des fois, il faut que vous payiez l'éditeur pour qu'il vous publie. Et l'éditeur, il va demander à d'autres chercheurs, mais est-ce que tu veux être éditeur en chef? Est-ce que tu veux être correcteur de l'article? Et il ne vous paye pas. Donc en gros, celui qui s'en sort très bien de l'histoire, c'est quand même l'éditeur, qui lui, il a juste à maintenir un site web, à faire de la publicité avec des sacs, des stylos, etc. Et à mettre les gens en lien en disant, toi j'aimerais bien que tu corriges cet article, ou comme ça. Donc là, l'émergence de l'open access, c'est la publication, elles sont soit gratuites, soit payantes, auprès de l'éditeur quand vous voulez publier quelque chose, ça dépend des choses. Par contre, n'importe qui a accès aux publications. Alors ça dépend des contrats de licence, vous avez le droit de les modifier ou pas, vous avez le droit de les diffuser. C'est exactement comme les Creative Commons, vous avez différents types en fonction du journal. Mais en tout cas, n'importe qui dans le monde peut accéder gratuitement à vos résultats de recherche. Alors l'autre point, c'est les formats ouverts. Alors ça a pas mal d'intérêt, c'est assurer l'interopérabilité. Donc c'est bien, on a fait l'acquisition sur une machine, mais on aimerait bien pouvoir le lire sur d'autres types d'appareils, que ce soit ou sur d'autres systèmes d'exploitation, que ce soit sous Linux, que ce soit sur votre tablette ou sur n'importe quoi. Assurer la conservation des données. Alors ça, c'est un gros problème actuellement dans la recherche, c'est parce qu'il y a des données qui ont été acquises il y a jusqu'à récemment, mais sur des machines qui datent des années 90. Le fabricant existe ou pas, mais ne maintient plus le logiciel, n'en a plus, ne veut plus rien avoir avec ça, donc vous n'avez pas forcément, si votre machine tombe en panne, vous perdez les supports ou quoi que ce soit, vous êtes coincé, vous n'avez plus accès à vos données. C'est assurer donc, du même fait, l'accessibilité, assurer la liberté de disposer des données, alors parce que là, je vous parlais des publications, il y a un logiciel qui s'appelle EndNote, qui est un logiciel propriétaire, qui vous permet de gérer votre bibliographie, et un logiciel libre qui s'est développé en parallèle qui s'appelle Zotero. Et Zotero, ils ont fait, c'est très bien, on va prendre le format de données d'EndNote et puis on va l'importer dans notre logiciel. Comme ça, ceux qui veulent passer du logiciel propriétaire au logiciel libre, ils ont juste à prendre leur fichier de base de données et on va l'importer. Et EndNote a porté plainte contre l'université et les développeurs qui avaient développé Zotero. Donc ça, ça a été débouté, ils ont réussi à passer outre, mais c'est des choses qui arrivent quand même. Et c'est aussi assurer la propriété des données, parce que dans ce cas-là, la boîte qui édite EndNote a dit non, mais de toute façon, les données, elles nous appartiennent, c'est dans notre format, ça appartient pas à la personne qui a mis les publications dedans, c'est à nous. Donc c'est un peu ce qui se passe sur le cloud. Hein. Vous mettez des données dedans, vous n'êtes pas sûr que c'est à vous, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les sortir, et vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a encore dedans. Alors au niveau des formats classiques, les formats de tableur, de traitement de texte, de présentation, il y a des formats libres et ouverts qui ont été définis. Pareil pour les illustrations, pour les images. Alors par contre, en ce qui concerne les formats binaires, donc issus en général des machines, ça c'est rarement libre. C'est pareil en électronique, il y a des composants où on a les FPGA par exemple, qui sont des composants programmables, on n'a pas forcément accès aux formats de fichiers pour pouvoir les programmer. L'autre aspect, c'est le logiciel libre, c'est-à-dire que vous avez le droit d'exécuter votre programme pour en faire ce que vous voulez. Ce qui n'est des fois pas le cas avec le logiciel propriétaire, on vous interdit, on vous dit que vous avez le droit de l'utiliser avec notre machine, mais pas avec la vôtre. La liberté d'étudier le fonctionnement de votre programme et de le modifier. Par exemple, vous avez votre programme qui ne fait pas ce que vous voulez, avec un logiciel propriétaire, vous n'avez pas le droit de le toucher pour qu'il puisse faire les fonctionnalités que vous voulez ajouter. Et pour ça, vous avez besoin d'accéder au code source. La liberté de redistribuer des copies. Par exemple, vous avez acquis des données sur une machine, vous devez travailler avec un autre chercheur, vous lui dites, tiens, prends mon logiciel, comme ça tu pourras accéder aussi à mes données. Ça, avec un logiciel propriétaire, ce n'est pas possible non plus. La liberté aussi de distribuer aux autres des copies que vous avez modifiées. Alors, pour ça, vous avez besoin d'accéder au code source, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi donner des droits et des devoirs aux personnes à qui vous donnez le code source, en lui disant, ok, toi aussi tu peux le modifier, mais tu le redistribues aux autres de la même manière. Alors, il y a un autre domaine qui est en train de se développer aussi, c'est ce qu'on appelle les publications ouvertes, et en gros, c'est ce qu'on appelle l'open data, mais un peu dans le même genre de ce qui est fait avec les regards citoyens que vous avez pu voir hier. et qui permet en fait de partager l'intégralité des publications. Parce que la mode actuelle dans les publications, c'est qu'on va essayer d'en dire assez, mais pas trop. Donc on va pas tout donner, on va pas donner tous les résultats, etc. Donc ce mouvement-là, il va à l'encontre de ça et dit on donne tout. On donne tous nos résultats bruts, tous nos protocoles, toute la façon dont on l'a fait, tous nos logiciels, tout, tout, tout. Donc ça, donc il y a des formats de fichiers qui ont été développés et qui permettent à n'importe qui de reprendre votre recherche, de reprendre l'intégralité de vos résultats bruts. Donc c'était la même chose avec les données des sénateurs hier dans Regard Citoyen. C'est vous avez les données brutes, vous pouvez en faire ce que vous voulez maintenant et les retravailler. Alors une des premières applications que j'ai pu réaliser lors de ma thèse, c'est l'analyse d'un format de fichier d'un appareil qui permet... L'appareil, en fait, il sépare les différentes molécules qui sont présentes dans un extrait de plante. Donc, en fait, vous avez trois dimensions. Vous avez un système qui va pousser les molécules devant un détecteur. Donc, ce détecteur, il est constitué d'une source UV, d'un système qui va séparer toutes les longueurs d'onde qu'il y a dans votre source UV, et d'un détecteur qui va vous dire, ben là, ce qui vient de passer devant le détecteur, ça absorbe... Alors, on va prendre des images en couleur. Hein, ça absorbe, celle-là, elle absorbe un peu plus dans le rouge, celle-là, un peu plus dans le vert, celle-là, un peu plus dans le bleu. Donc vous avez un format de fichier qui vous décrit dans le temps comment votre molécule elle a absorbé, à quelle couleur et à quelle intensité. Donc là, nous, on avait à peu près 1000 fichiers de données à intégrer dans un logiciel à nous. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune description de comment était fait ce format de fichier. Et le seul moyen, quand on a contacté le fabricant, il nous a dit « Ah ben si, vous pouvez ouvrir votre fichier dans notre logiciel, faire fichier, exporter en CSV ». Alors ça c'est bien, quand vous avez 1000 fichiers, c'est pas forcément très pratique. Le CSV contenait pas toutes les données, donc vous vous retrouvez à attendre à environ 20 secondes que le fichier se charge, devoir cliquer sur exporter, donner un nom au fichier, et vous rendre compte qu'il manquait les trois quarts des données dedans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le format binaire du fichier, on a pris un éditeur, et on a modifié des petits morceaux à l'intérieur du fichier pour savoir ben, ça sert à quoi, ça fait quoi, ça commence à encoder. Et petit à petit, ça nous a permis de savoir, eh bien, tiens, les données elles sont stockées dans tel ordre, de telle façon, et en modifiant ça à cet endroit-là, ça a modifié ce qu'il y avait à 5 minutes, par exemple. Ou là, ça a dit qu'à 200 nanomètres, il y avait un signal. Donc ça a permis de sortir, là c'est un peu barbare, hein, mais ça a permis de sortir quelques équations de comment ça fonctionne, comment étaient encodées les données. Donc on a, par exemple, dans un format de fichier, quand on veut qu'il soit compact, on ne peut pas trop se permettre de mettre des valeurs avec 50 chiffres après la virgule et des choses comme ça. Donc là, il y a un système qui est assez ingénieux de leur part, c'est qu'on stocke le premier point. Donc les spectres, ils sont en continu, donc on stocke le premier point à un temps à 5 minutes, par exemple. On dit, ce point-là, il est à 1000,034. Et après, on va donner que des décalages. Parce que le phénomène physique qui fait qu'une molécule, elle absorbe dans UV, c'est toujours continu. Donc on sait qu'entre 200 nanomètres et 201 nanomètres, il ne va pas y avoir un très grand saut. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils stockent que des toutes petites données qui donnent le décalage. Là, on a fait plus 1, là, on a fait plus 10, là, on a fait moins 1, là, on a fait moins 10. Donc ça permet d'avoir des formats de fichiers assez petits. Alors il y a des systèmes d'encodage un peu particuliers. On n'a pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça, parce que ça permet, là, pour les longueurs d'onde en particulier, nous, la zone qui nous intéresse, elle est en gros entre 200 et 600. Leur format de fichier, il encode entre 0 et 140 000. Ce qui veut dire qu'on a une précision un peu ridicule au niveau des 200-600. Mais bon. Alors, je vous disais, les formats de fichiers contiennent beaucoup de données. En gros, une analyse, ça prend entre 20 et 200 mégas et c'est 15 000 points x 900 sur 16 bits. Donc, ça veut dire que ça fait 15 000 x 900 x 2 octets. Alors, le premier prototype, il était en Python. Ça prend environ 2 à 3 minutes juste pour pouvoir mettre les données en mémoire. Donc ça, c'était pas trop pratique. La réimplémentation en C, qu'on a appelée la Lee-Weisenberg, en gros, ça prend 3 secondes et ça génère un PNG de 13 000 par 2560 sur un portable, enfin celui-là, classique. Pareil, pour générer un fichier CSV de 40 mégas, ça met 1 seconde 5. Donc comparé au temps d'ouverture du fichier de 15 secondes, les plantages en plus du logiciel et les données qu'on n'avait pas entières, ça nous a permis quand même de traiter plus facilement tout ça. Donc là, c'est un exemple de ce que peut sortir le logiciel quand on lui demande de nous sortir une image. Alors déjà, au niveau des choix technologiques, tout à l'heure, je vous ai montré, eux, ils les représentent avec ce type de couleur. Ça, en recherche, c'est complètement ridicule de présenter avec ce type de couleur. Ça donne des artefacts, c'est-à-dire qu'on passe d'une couleur noire à après du bleu clair, du vert, du jaune. Et en fait, ça fait des zones où on croit qu'il se passe des choses, mais en fait, c'était juste un changement de couleur. Donc l'œil, il voit un changement de forme, alors que c'est uniquement un changement de couleur. Donc ça, déjà, dans notre logiciel, on a décidé de représenter avec ce qu'on appelle des fire maps. et qui permettent de voir déjà à l'œil beaucoup plus de différences de couleurs, et qui nous permettent aussi de retravailler. Alors là, c'est la représentation visuelle pour nous, pour pouvoir trier rapidement les données, mais ça nous permet aussi de travailler avec nos logiciels derrière tous nos résultats. Et là, en gros, pour générer cette image qui fait 7800 pixels par 2500, ça prend moins de 2 secondes. Alors l'autre partie, c'était la partie matérielle, c'est-à-dire qu'on avait deux types d'appareils qu'on souhaitait coupler ensemble. Le premier, il sert toujours dans le même objectif, à séparer différentes molécules qui sont dans un extrait de plante. Alors il se base sur un système qu'on appelle biphasique, c'est comme un mélange de solvants qui fait comme l'huile et l'eau. Et il y a des molécules qui préfèrent aller dans l'huile, des molécules qui préfèrent aller dans l'eau. Et ça, on met ça dans des sortes d'ampoules à décanter, on agite, on reprend ce qu'il y a en haut, on resépare. Donc ça, nous, on a une petite machine qui fait ça, elle a l'équivalent de 1000 cellules à l'intérieur, donc ça facilite un peu le travail, et qui permet, par rapport à d'autres techniques, dont celle dont j'ai parlé avant, d'économiser beaucoup en solvant, d'injecter des grandes quantités, de travailler plus vite. Le problème qu'on avait, c'est qu'est-ce qui sort de notre machine à ce moment-là ? Donc pour ça, on a une technique qui s'appelle la RMN. Alors c'est la résonance magnétique nucléaire. C'est exactement la même chose qui se passe quand vous passez une IRM. C'est le même principe, sauf que là, on est dans des choses un peu plus puissantes. Alors, une molécule, en fait, elle est constituée d'atomes qui sont reliés les uns aux autres de différentes manières. C'est ça qui fait. Il y a une molécule A, dans la molécule B, elle peut avoir les mêmes atomes, mais qui ne sont pas reliés de la même façon. Et cette technique-là, ce qu'elle permet de faire, c'est, cet atome-là, qu'est-ce qu'il a autour de lui ? En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on tape avec une radiofréquence, ça fait comme si on tapait sur un ensemble de cloches, et chaque atome va résonner, chacun, à leur note précise, et on mesure à quelle note il résonne. Donc pour ça, on utilise un aimant supraconducteur qui est refroidi à l'hélium liquide et à l'azote liquide, et qui est à 14 tesla. Alors 14 tesla, ça commence à faire beaucoup. Une IRM, c'est 1 tesla déjà, donc c'est pareil, hein, c'est à l'hélium liquide. Et le champ terrestre, c'est à 5×10⁻⁵ tesla, c'est-à-dire que là, on est 300 000 fois plus fort que le champ terrestre. Donc en gros, vous arrivez à côté de cet appareil avec une clé sur un badge, ça vous l'arrache. Alors, on avait un appareil qui permettait de coupler une autre technique avec cette technique de RMN. Donc c'est des petites colonnes que vous voyez là avec les deux petits bouchons bleus, qui elles permettent aussi de séparer des molécules, mais ça permet de séparer des toutes petites quantités, ça demande beaucoup de solvants. Et on sépare les molécules individuellement et on vient les piéger sur les petites cartouches blanches là, qu'on voit en haut dans le rack. Donc l'appareil, il est à gauche, c'est un appareil assez intéressant, vous avez des 20 notes pression, donc c'est des techniques qui tournent à peu près à 200 bars, voire même sur des techniques un peu plus récentes qui sont à peu près à 1000 bars. Donc il faut des systèmes qui résistent quand même bien à la pression. Vous avez des vannes haute pression en dessous, et en bas, un petit bras robotisé. Alors, hop, je vous montre la représentation schématique, avec toutes les vannes, des seringues qui se pilotent, donc vous pouvez les dire, vous prenez un petit peu de ce liquide, ça le mélange, ça vient le mettre sur la cartouche A, B, C, etc. Alors là, on s'est dit, c'est parfait, la machine elle est exactement faite pour ce qu'on veut faire. Il y a juste à modifier un petit peu sur les vannes, brancher ce qui nous intéresse. Donc on a appelé le fabricant, on lui a demandé, par contre, on aimerait bien pouvoir le piloter avec notre logiciel, parce que le vôtre, il ne permet pas de faire ce qu'on veut faire, et en plus, il plante tout le temps. Donc c'est pas très pratique. Le fabricant, il nous a dit, non, c'est pas possible, on a un kit de développement, mais il n'est pas vendu avec cet appareil, il vaut environ 30 000 euros. Sachant que l'appareil, déjà, il en vaut 70 000. Donc en effet, c'est pas possible. On leur a demandé, mais est-ce qu'on peut au moins avoir le protocole de communication et faire notre logiciel ? Non, et puis de toute façon, c'est trop compliqué, vous n'arriverez pas à le faire. Ok, bon. Deux jours plus tard, on s'est dit, on va quand même regarder qu'est-ce qui se passe. La machine, elle communique en RS-232, donc c'est un format de communication relativement standard dans les équipements en électronique, avec un boîtier qui convertit en Ethernet pour envoyer au système d'exploitation, qui en l'occurrence est Windows. Le logiciel marche que sous Windows. Donc là, on avait différentes possibilités. Soit on étudie directement ce qui passe sur le RS-232, soit on étudie ce qui se passe sur l'Ethernet, soit on étudie ce qui se passe au niveau du système d'exploitation. Alors là, pour aller vite, on a pris au niveau du système d'exploitation, on lui a dit, donne-nous tout ce qui passe sur le port série. Ça nous donne des choses comme ça. Et là, on voit, request, c'est l'ordinateur qui envoie quelque chose à la machine, et answer, c'est la machine qui répond. Alors là, on se dit, elle envoie des chiffres. Alors ça, elle en envoie à peu près une cinquantaine par seconde. Donc on s'est dit, c'est un petit peu compliqué. Puis en regardant un peu les différentes trames, on s'est dit, c'est pas si compliqué que ça. Il y a toujours un code de départ qui vaut 2, un code qui correspond au module à qui on a dit, par exemple, tourne la vanne, ou tire sur la seringue, ou viens chercher la cartouche temps. Un sous-module pour dire, ça, c'est la seringue de gauche ou c'est la seringue de droite. Et après, des arguments pour dire, la seringue pompe 100 microlitres ou repousse 50 microlitres. Et après, la machine, elle répond avec des codes très simples, soit les codes d'en haut, en disant bon, mais moi, j'ai une pression de 10 bars, par exemple, si on lui demande quelle pression est dedans. Soit des codes, ceux qui sont en bas, 15, 24 ou 18, c'est il y a un gros problème, donc la machine s'est coincée. Ou 6, ok, tout s'est très bien passé. Donc, première étape, c'est on prend un petit programme en Python, on tape les commandes à la main et puis on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on lui envoie telle commande à la machine ? Donc, première commande, il ne se passe rien, on s'est rendu compte que c'était la commande qui demandait à la machine dans quel état tu es. Est-ce que tu es en train de faire quelque chose ou est-ce que tu es libre ? Puis petit à petit, on a pu trouver les différentes requêtes. Et en particulier, 32 requêtes d'action qui correspondent à faire tourner la vanne, savoir quelle pression, faire tourner une vanne, bouger le robot en bas. Donc, viens chercher la cartouche 1, la cartouche 2, viens la prendre, viens la serrer dans une pince pour pouvoir mettre sous pression. Il y avait pas mal de choses. Et 44 actions, requêtes d'état qui permettent de savoir qu'est-ce qu'est en train de faire la machine, à quelle vitesse elle est, est-ce qu'elle est libre pour faire tel type d'action. La deuxième étape, ça a été de réaliser un simulateur du logiciel qui était sous Windows, de la machine, pardon. Donc on a simulé la machine avec un petit programme en Python pour faire croire au logiciel qu'il est en train de communiquer avec la machine. Donc pour vérifier, est-ce qu'on a bien compris le protocole, est-ce que tout est bien géré. Donc le logiciel, il se connecte en RS-232, exactement comme la machine. Et avec le logiciel, on a vu qu'il réagissait complètement pareil. On pouvait lui modifier les numéros de série. Enfin, on avait intégralement toutes les commandes de la machine. Et le logiciel n'y voyait absolument rien du tout. Et au contraire, on s'est rendu compte que leur logiciel plantait dans certains cas. Et on a réussi à comprendre pourquoi la machine, elle envoyait certains types de codes que le logiciel n'était pas capable de comprendre. Et en gros, il plantait, il se bloquait en plein milieu, il pétait des cartouches. Donc il faut savoir que les cartouches, elles ne sont pas données quand même. Les racks, ça vaut 600 euros, toutes les cartouches que vous avez vues. Et quand la machine, elle les casse et qu'en plus, elle casse une pince en plastique qui est dedans, c'est un peu embêtant. Donc là, déjà, notre système, ça marchait un petit peu mieux quand on a fait ça. Qu'on a appelé Prosper, qui est un petit logiciel en Python avec une interface en Qt. C'est un petit programme, c'est 1600 lignes de code, donc c'est pas énorme. Et on s'est rendu compte que lui, il plante pas. Déjà, et la machine se plante plus quand elle prend les cartouches, etc. Donc l'avantage de ce programme, c'est qu'il est en Python, il est en Qt, ça marche sur toutes les plateformes, vous pouvez le faire marcher sur votre Mac, sur votre Linux, sur votre Windows, sans aucun problème. Donc voilà à peu près l'interface du logiciel, donc qui est beaucoup plus poussée que la leur, c'est-à-dire que là on peut faire des systèmes d'automatisation, on a accès à toutes les vitesses, on peut dire en cas de problème il y a des petits boutons panique en bas, si la machine elle fait pas ce qu'on lui demande, on peut tout arrêter et tout remettre à zéro. Donc on a accès à quelques petites choses en plus que ce qu'ils avaient prévu, et en particulier là ce que vous voyez à droite c'est la représentation des deux racks de cartouches. On peut lui dire moi je veux travailler sur les trois qui sont en haut, puis celle-là, ce qui n'était pas possible avec le logiciel du fabricant. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.
Vous avez mis combien de temps à quel système, à trouver comment il fonctionnait ?
Le deuxième ?
La machine.
Moins d'une semaine.
Ah, c'était rapide.
Ouais, à plein temps, mais à peu près moins d'une semaine, c'était relativement simple. Ouais, tout seul, ouais. Là, le fabricant avait dit que ce n'était pas possible.
Au début, vous avez un peu parlé des problématiques légales, donc avec tout le paragraphe qui disait qu'a priori, en Europe, on était tranquille. Y a quand même des gens qui se font embêter alors qu'ils ne font même pas de reverse engineering. Alors, donc, dans les faits...
Sur quoi, en particulier ?
J'ai l'exemple du mec qui était parti à faire un Shazam-like chez lui sans avoir regardé comment ça marchait Shazam et qu'on lui a expliqué qu'il valait mieux qu'il arrête, quoi.
Alors on lui a expliqué, mais normalement il peut... En fait, il faut qu'il y ait une décision de justice pour dire normalement qu'on peut faire du reverse.
C'est la théorie, mais on l'a pas dit que c'est qu'il a arrêté, quoi. Alors que ça n'avait pas l'air d'être un
mec. Non, en fait il peut continuer. À partir du moment où il n'a pas contourné de système de protection et de système de cryptage, il peut très bien faire ce qu'il veut. Alors après, en Europe, attention, parce qu'aux États-Unis, il y a les systèmes des brevets logiciels, etc., qui eux empêchent une partie de ces choses-là.
Oui, en Europe. Voilà.
Et vous n'avez pas eu de pression par la suite de la société quand vous avez mis le logiciel en ligne et...
Alors il n'est pas encore en ligne, mais du coup je leur avais dit, de toute façon, vu que vous ne donnez pas les données, non seulement on va le faire, mais en plus ça sera diffusé en libre et n'ayant pas eu de réponse, j'ai pris ça comme c'est pas grave.
Et au niveau des utilisateurs donc, de la machine, il y a déjà des gens qui ont interagi avec vous pour savoir quand est-ce que ça va être disponible ou,
Alors dans le laboratoire, ils l'utilisent sans problème, le logiciel. Alors c'est un équipement qui est relativement rare. Et surtout, l'ensemble des équipements, il n'y a pas beaucoup de labos qui ont tout ça. Alors, et pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, j'avais présenté ça dans un congrès à New York où le fabricant était là et a vu la conférence, a rien dit. Donc,
J'aurais voulu savoir quel est le nom que porte l'engin que vous avez utilisé pour ensuite extraire les molécules de la plante, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'il y avait à l'intérieur.
Ça là ?
Non, encore avant.
Alors ça, c'est un détecteur à barrettes de diode en UV. Alors il y a une technique en chimie qui s'appelle l'HPLC. Donc c'est des petites billes de silice, comme du sable si tu veux, sur lesquelles tu envoies ton extrait de plante. Et en fonction de si les molécules elles préfèrent le solvant avec lequel tu les pousses dedans ou les petites billes, elles vont se séparer dans le temps. Donc il y en a qui vont mettre du temps à traverser et d'autres qui vont sortir plus vite. Donc le détecteur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des ultraviolets. Les molécules, elles vont absorber plus ou moins en fonction de certaines longueurs d'onde. Après, on a un réseau de diffraction qui va séparer toutes les longueurs d'onde et des sortes de photodiodes, si tu veux, derrière, qui vont dire je viens de recevoir une lumière avec telle puissance.
Mais ce n'est pas la première des machines qui existait. Vous êtes appuyé sur des créations qui déjà étaient disponibles ou...
Alors là, la machine, elle existait. Hein. C'est juste le format de fichier. D'accord. Que sortait la machine qu'on a reversé. Hein.
Ok.